Transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose Appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Il est 9h40 en Algérie, où les bureaux de vote sont ouverts depuis maintenant une heure et demie. 23 millions d'électeurs sont appelés à élire leur nouveau président. Vous le savez, 6 candidats sont en lice, dont Abdelaziz Bouteflika, le grand favori du scrutin, malgré ses 77 ans et surtout les rumeurs qui alimentent son état de santé. En tout cas, pour de nombreux observateurs, l'élection semble jouée d'avance à cause de la fraude. En revanche, la grande interrogation, la grande inconnue de ce scrutin porte sur le taux de participation, d'autant que 5 partis d'opposition appellent à boycotter le scrutin. Seront-ils entendus? En tout cas, en réaction à ces appels, eh bien Abdelaziz Bouteflika est sorti de son silence pour exhorter ses compatriotes à se rendre aux urnes. Alors, que vous inspire cette stratégie du boycott, qui est une option d'ailleurs souvent privilégiée par l'opposition sur le continent africain? La politique de la chaise vide vous semble-t-elle efficace? Dites-nous d'ailleurs si ce scénario s'est produit dans votre pays et quelles en étaient les conséquences. 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous nous appelez de France. Et vous continuez à débattre évidemment entre vous sur les réseaux sociaux et notamment sur notre page Facebook. Wilfried, bonjour.
Oui, bonjour Juan. Je salue tous les auditeurs de RFI et particulièrement ceux qui écoutent RFI en Kabylie.
D'accord, très bien. Vous nous appelez, vous, de Lomé. Vous êtes au Togo. Et vous, vous dites que le boycott, eh bien, c'est un bon moyen de pression sur le pouvoir.
Justement, parce que aujourd'hui, nous avons un président qui n'a pas pu animer un seul meeting, mais tous les autres disent qu'il est le favori de ces élections. C'est vraiment un paradoxe. L'opposition aurait pu se rallier en grand nombre à la coalition des 5 partis qui appelaient boycott. Et en ayant derrière une stratégie efficace de pression sur le pouvoir pour que la réforme puisse se faire avant ces élections, parce que on ne peut pas comprendre que l'Algérie, qui est un grand pays de l'Afrique, j'estime, qui va garder un président qui ne tient pas debout et une opposition qui va pratiquement à ces élections en rang dispersé et qui va se faire simplement raquiller. Et ça fait mal, donc ils auraient pu maintenir la pression populaire en se joignant par exemple à un mouvement de jeunes qui est actif sur le terrain. Je veux parler du mouvement qu'on appelle ça Suffit là-bas en Algérie.
Oui, le mouvement Barakat.
Justement, donc, pour faire pression par exemple sur le pouvoir, pour obtenir les réformes, pour aller à des élections apaisées, oui, et transparentes, équitables. Donc voilà, aujourd'hui c'est pas le cas, donc je crois que l'opposition fonce droit dans le mur.
Oui, alors vous dites que le boycott est efficace à condition que l'opposition soit unie. Effectivement, ce n'est pas le cas en Algérie, puisque voilà, il y a quand même 5 candidats face au président sortant Abdelaziz Bouteflika. Vous faisiez référence au mouvement Barakat. Effectivement, on en a beaucoup parlé ces dernières semaines. C'est un mouvement essentiellement composé de trentenaires, hein, donc on peut le dire, la jeunesse algérienne. Ils ont organisé une quinzaine de manifestations. Mais Wilfried, ce mouvement, par exemple, il n'a pas drainé énormément de monde dans les manifestations. Ils étaient entre 100, 200, voire allez, au mieux 300 personnes. Vous, au Togo, vous avez déjà été confronté à cette problématique du boycott?
Justement, parce que si on prend le cas de mon pays, le Togo, les scrutins derniers, je veux parler des législatives, qui se sont passés récemment au Togo, l'opposition a adopté presque la même stratégie en disant qu'il ne va pas participer aux élections sans réforme. Et finalement, ils ont décidé de participer en dernière minute dans un élan de capitulation. Qu'est-ce que ça a servi? Ça a servi à renforcer aujourd'hui le pouvoir qui a la majorité absolue à l'Assemblée. Donc je pense que c'est exactement ce que l'opposition algérienne est en train de faire. Ils iront à ces élections, peut-être celui qui apparaît aujourd'hui comme le rival, celui de Bouteflika,
oui,
et Benflis.
Mais Wilfried, j'essaye de comprendre votre raisonnement, que je respecte bien évidemment. Vous dites, voilà, l'erreur de l'opposition au Togo, c'est qu'elle a participé aux élections législatives, et du coup, on voit bien que la majorité présidentielle a la majorité absolue au Parlement. Mais enfin, si l'opposition avait boycotté le scrutin, l'opposition serait clairement absente aujourd'hui du Parlement togolais.
Aujourd'hui, sans Parlement, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont peut-être une minorité de blocage. C'est pas l'essentiel aujourd'hui. On veut la réforme, on veut la paix. C'est ce que tous les Togolais veulent. Je pense que c'est un peu le cas aujourd'hui en Algérie. S'ils participent à ces élections pour conforter, pour renforcer Ben Ali qui est au pouvoir, qui est puissant, qui a
Ben Ali.
Même mis sous toutes les institutions. Mmh.
Ben Ali, c'était en Tunisie et il n'est plus au pouvoir. C'est Abdelaziz Bouteflika qui est au pouvoir en Algérie depuis 1999. Merci en tout cas, Wilfried, d'avoir lancé le débat. Je vous souhaite une bonne journée à Lomé. Tiens, nous allons à Conakry, en Guinée. Bonjour Alimou.
Bonjour Juan, bonjour aux auditeurs de RFI.
Alors, est-ce que vous avez un point de vue aussi tranché que Wilfried sur la question du boycott?
Bon, nous, en Guinée, on a connu deux situations vraiment qui méritent d'être expliquées. Je vous rappelle qu'en 2003... L'Ansana Conté était malade. Bref, la Guinée est dans la même situation que l'Algérie aujourd'hui. Le président s'était présenté. Il n'était même pas capable d'aller vers l'urne pour voter. C'est l'urne qui s'est transportée dans sa voiture. Et
effectivement.
Il a voté.
Ah oui, je me souviens, effectivement. C'est intéressant, cet épisode. C'est l'urne qui s'est déplacée jusque dans la chambre du président de la République à l'époque. Puisqu'il était fatigué, malade, effectivement. Là, on nous dit, en Algérie, qu'Abdelaziz Bouteflika ira voter lui-même personnellement. On verra ça, évidemment, dans le courant de la journée avec nos envoyés spéciaux sur place, Marie-Pierre Olfan, et notre correspondante Leïla Berato. Excusez-moi, je referme la parenthèse. Et donc, à partir de cet événement en 2003, quelles leçons vous en tirez, vous?
Bon, dans cette situation, l'opposition était désarmée. Elle avait été obligée de boycotter les élections. C'est vrai, le pouvoir de l'époque s'était trouvé en faire-valoir pour aller aux urnes, mais ce qu'il faut reconnaître, à partir de 2003, il y a une série de crises qui s'en est suivie par la suite. Il y a eu les grèves de 2005, 2006, 2007, et qui a abouti, après la mort de l'Ansana Conté, à la prise du pouvoir, parce que les institutions qui étaient là n'étaient plus représentatives du peuple guinéen. Ouais. Maintenant, pour le cas actuel, en Guinée, aujourd'hui, l'opposition a opté pour le combat. Et je pense que cette fois-ci, ça a payé. Qu'est-ce qui s'est passé? L'opposition s'est organisée très tôt pour exiger les conditions d'organisation d'une élection transparente. Ils ont fait une série de manifestations qui a alerté la communauté internationale qui s'est impliquée. À la suite, il y a eu un accord qui a été trouvé et les partis sont partis, ils sont allés aux élections. Le résultat est que le parti au pouvoir n'a pas pu obtenir une majorité simple.
Ouais. Donc ça veut dire que la menace du boycott est intéressante. En revanche, passer à l'acte a plus de conséquences politiques. Mais la menace contraint le pouvoir, et c'est ce que vous disiez à l'instant en parlant de la Guinée, à réformer les institutions et à améliorer le processus démocratique. Alimou, bonne journée à Conakry. Merci de nous avoir appelé. 33 9 693 693 70. Nous parlons ensemble de la stratégie du boycott. Faut-il privilégier cette option, comme le font d'ailleurs un certain nombre de partis politiques, partis de l'opposition sur le continent africain? En tout cas, aujourd'hui en Algérie, 5 partis appellent à boycotter l'élection qui se déroule en ce moment même. Mourad, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes franco-algérien, c'est bien ça? Vous nous appelez de Paris?
Oui, c'est ça.
Vous avez boycotté, vous n'avez pas voté, alors que les Algériens de France pouvaient voter samedi et dimanche dernier.
Alors, il faut savoir, moi, j'ai pas été voté comme bon nombre d'Algériens qui sont là, que je connais d'ailleurs. Il faut savoir que boycotter, c'est un acte citoyen. Car la fraude depuis 1962 à ce jour, c'est un acte réflexe pour le système qui est en place. Alors, on nous propose quoi? Un candidat qui est malade avec un handicap physique et moral, qui est pratiquement, qui a un pied dans la tombe et un pied dehors. Et un autre candidat qui est issu du système, c'est-à-dire M. Memphis aussi. En fait, quand voter, c'est carrément donner un chèque à blanc au système. On sort pas du problème. Le fait de ne pas voter, c'est carrément discréditer effectivement le système. Parce que nous, c'est pas le problème de Bouteflika, c'est évident. Mais c'est le système qui est remis en cause.
Mais en même temps, vous savez bien que les taux de participation sont gonflés. Dernier scrutin présidentiel, on nous a parlé officiellement de 75%, alors que tout le monde est d'accord pour dire que franchement, dans le meilleur des cas, il peut y avoir 25% de participation, mais la moyenne, bien souvent, c'est moins de 20%.
Alors, il faut savoir que toutes les participations jusqu'à présent ont été gonflées, qui varient entre 15 et 10%.
Oui, bon, attendez, on va pas. Moi, j'ai entendu mille et un chiffres depuis le début. Si chacun donne des chiffres, vous parlez de 10% de participation. On avait un politologue ce matin sur l'antenne d'RFI qui, lui, avait vraiment l'impression que voilà, c'était entre 20% en moyenne, 20%. Enfin, on va pas polémiquer. On sait que les Algériens se mobilisent peu finalement au moment de la présidentielle, mais au final, Mourad, c'est donc le président sortant qui sera reconduit.
Une seule remarque. Il faut savoir simplement que les organisations de meeting pour l'élection du président Bouteflika, c'est des élections, le remplissage des salles a été fait par des organisations associatives, c'est-à-dire que les gens sur place ne sont pas mobilisés pour aller soutenir le candidat Bouteflika. C'est simplement pour vous dire à titre local comment ça se passe. C'est-à-dire que s'il y a un meeting à Annaba, on ramène des gens de Bel Abbès, etc. C'est carrément un réseau associatif du FLN, de l'ancien système, pour dire aux gens, voilà, on est soutenu, etc. Moi, très honnêtement, l'acte citoyen actuellement, c'est de ne pas donner un chèque à blanc ni à Bouteflika, ni à Benflis. D'accord. La sortie de crise actuellement, c'est quoi? C'est simplement un gouvernement de transition avec des représentants qui sont non affiliés à un parti quelconque, des technocrates issus de la société civile. C'est ça la sortie de crise.
C'est ce que demande le mouvement Barakat, d'ailleurs. C'est exactement ce que demande Barakat. Et Barakat, eux, n'appellent pas au boycott, curieusement.
L'ancien président Zeroual, sur une lettre ouverte, effectivement, il a bien spécifié que la seule sortie de crise, c'est un gouvernement de transition. Nous, si effectivement Benflis peut nous proposer une sortie de crise avec 3 ans, une transition de 2 ou 3 ans, et puis d'assurer de partir à lui et son système FLN, parce qu'en fait, quand on se rend compte que les systèmes qui sont pleins, c'est le FLN, RND, c'est le fils du FLN, et avec un système militaire qui est mis en place depuis 62, on nous propose quoi? Il n'y a aucun changement.
Mourad, on a compris votre coup de gueule et merci de nous avoir appelé, de l'avoir exprimé sur l'antenne des RFI. On va donner la parole à d'autres auditeurs. 33 9 693 693 70. Jacques, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour, Juan.
Oh, je vous entends. Il y a un peu d'écho dans la pièce où vous êtes, je pense. Il y a trop de bruit dehors, me dit-on, Jacques. Alors, on va essayer de tendre l'oreille. Vous nous appelez d'Abidjan. Vous n'êtes pas convaincu, vous, par la stratégie du boycott?
Oui, en fait, Juan, comme je le dis, la stratégie du boycott ne peut pas, en fait, régler totalement le problème des élections. Bon, dans le cas particulier de la Côte d'Ivoire, en 95, il y a même eu ce qu'on a appelé le boycott actif. Malgré cela, le président Bédié a été président. En 2000, vous vous en souvenez très bien, il y a eu le boycott du fait que M. Ouattara et M. Bédié étaient normalement éliminés comme candidats.
Ouais, ils n'avaient pas été autorisés à être candidats, effectivement.
Oui, en fait, d'une manière ou d'une autre. Mmh. Mais ils ont appelé au boycott. Ils ont appelé à boycotter du fait qu'il n'avait pas été retenu comme candidat. Ça n'a pas empêché M. Gbagbo d'être président. Finalement, pour moi, je vais dire, l'Algérie n'a qu'à suivre l'exemple de ses voisins, c'est tout.
C'est-à-dire? C'est-à-dire
le soulèvement populaire, tout simplement.
D'accord, vous faites référence à ce qu'on a appelé les printemps arabes, c'est-à-dire il faut que les gens descendent dans la rue et manifestent.
Que le printemps arabe soit totalement complet.
Oui. Mais quand on voit aujourd'hui le bilan du printemps arabe en Égypte, en Libye, en Syrie, est-ce qu'on peut souhaiter la même chose pour l'Algérie? D'ailleurs, Abdelaziz Bouteflika a profité de la crise syrienne et libyenne pour interpeller les Algériens en disant dans des vidéoclips qui étaient diffusés lors de la campagne électorale, regardez ce qui risque de se produire en Algérie si vous ne votez pas pour moi le 17 avril.
Oui, en fait, ce que je vais expliquer, Abdelaziz Bouteflika regarde ce qu'il y a autour de... En fait, pour moi, tout ce qui se passe autour dans ces pays-là finira par entrer dans l'ordre, d'un moment, d'une manière ou d'une autre. Mais ça permet aujourd'hui de savoir que, en fait, le printemps arabe permet de montrer l'expression, j'allais dire, achevée de la démocratie, c'est-à-dire... comme on appelle le gouvernement du peuple par le peuple. C'est tout.
Bien.
Donc, pour moi, parce que l'opposition ne sera jamais assez forte devant un président, j'allais dire, au pouvoir.
Merci Jacques, bonne journée à Abidjan en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, je vous annonce maintenant que nous serons très prochainement à Abidjan pour l'enregistrement d'émissions. Je vous en dirai plus, évidemment, dans le courant de la semaine prochaine. Gédéon, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Vous êtes au Tchad, vous nous appelez de N'Djamena, la capitale. Alors quel est votre point de vue concernant la stratégie du boycott?
Mon opinion par rapport à la stratégie de boycott, Juan, c'est que ce n'est pas une bonne stratégie. La seule raison, c'est que, vous savez, chez nous au Tchad, en 2011, nous avons eu également des élections et il y a eu des leaders de l'opposition, tels que Yorongar Ngarneji, Saleh Kenzago, le feu Kamouge Abdelwader. ils ont boycotté les élections. Et ça n'a pas empêché, n'est-ce pas, au président de Déby de pouvoir être réélu au pouvoir. Alors, en Afrique, la stratégie de boycott n'est pas une bonne stratégie. On a besoin de l'alternance au pouvoir. Pour qu'il y ait l'alternance, il faut qu'il y ait la mobilisation, n'est-ce pas, les partis politiques doivent avoir des bons projets pour présenter à la société. En
fait, d'accord, mais excusez-moi, Gédéon, mais quand il y a fraude, comment faire?
Mais quand il y a fraude, il va falloir que la communauté internationale prenne également son rôle de pouvoir superviser les élections et que même les peuples algériens doivent être vigilants pour pouvoir, n'est-ce pas, voter celui-là, n'est-ce pas, qui va faire l'affaire et qui va être l'alternance en Algérie. Aujourd'hui, Bouteflika, c'est une vérité de la palissade. Il est physiquement malade et il ne peut pas diriger le pays. Et donc, je présume qu'en ce moment, il va falloir, n'est-ce pas, quelqu'un d'autre, un leader qui doit se lever en Algérie et que les Algériens doivent être sensibles et alertes pour pouvoir, n'est-ce pas, se mobiliser autour de ce leader et refuser, n'est-ce pas, de voter à Bouteflika.
D'accord, mais je pense que même celui qui... Enfin, on a eu des réactions d'auditeurs. Je crois que c'était en début de semaine, quelqu'un qui appelait d'Algérie ou un Algérien de France qui disait « Je vais voter, même si je sais que mon vote ne sera pas pris en compte, mais je préfère voter moi-même que quelqu'un vote à ma place si je décidais de ne pas participer à ce scrutin. » On va donner la parole à d'autres auditeurs. Petite phrase d'Ali Benflis qui disait il y a quelques jours que son principal adversaire, ce n'était pas Abdelaziz Bouteflika, mais la fraude. Mohamed, vous êtes à Nouakchott. Bonjour.
Bonjour. Bonjour, monsieur Roy.
Bienvenue.
Je vous remercie.
Ben, merci à vous. Bonne journée à Nouakchott et merci de nous accueillir dans la capitale mauritanienne. Boycotter le scrutin présidentiel, c'est un moindre mal, dites-vous.
Oui, je pense que il faut parler d'une réaction et d'une attitude plutôt qu'une stratégie. Quand la situation d'un pays est caractérisée par l'absence d'une démocratie qui puisse mener à l'alternance, je pense que le boycott se justifie. Il a le mérite d'attirer l'attention de l'opinion publique, d'alerter l'opinion internationale, qui souvent veut construire une certaine conscience morale que les choses se passent bien dans le pays qu'on va aider, auquel on va accorder des financements, parce que le gouvernement qui gère les deniers est un gouvernement démocratiquement élu. Mais si tel n'est pas le cas, je pense que le boycott s'impose de lui-même.
Là, en l'occurrence, excusez-moi Mohamed, en Algérie, une grande majorité de la population est convaincue que les jeux sont faits, donc il n'y aura pas d'alternance.
C'est pourquoi le cas de l'Algérie est dramatique. Parce que non seulement on sait qu'il n'y a pas d'alternance, donc les élections ne servent à rien, c'est une sorte de statu quo imposé, une sorte de coup d'État permanent. Et d'autre part, on a un président qui est dans un état de santé qui ne lui permet pas d'exercer la fonction présidentielle. Si cette fonction existe, or on hérite d'un système qui est très centralisé, et dans lesquels le chef de l'État a beaucoup de pouvoir.
Je voudrais qu'on accueille en une petite minute, excusez-moi Mohamed, un autre Mohamed de Paris, franco-algérien, mais bonjour Mohamed.
Oui, bonjour.
Vous avez peu de temps, mais c'est promis, on vous rappelle demain pour la libre antenne. Vous êtes franco-algérien, vous nous appelez de Paris, et vous boycottez le scrutin, vous n'avez pas voté, vous.
Absolument, moi j'ai pas été voté, parce que je sais que ma voix n'est pas comptée, c'est un vote frauduleux, c'est déjà, on sait déjà qui est c'est même pas le favori, celui qui sera le prochain président, donc c'était pas vraiment intéressant, il fallait le laisser seul, il fallait que tous les partis soient d'opposition, d'autant que les autres, quoi.
Ça signifie que Ali Benflis et les 5 candidats qui sont face à Abdelaziz Bouteflika ne sont pas de vrais opposants selon vous?
Pas vraiment, ouais. Ils sont pas vraiment des partis d'opposition, d'autant qu'ils savent qu'ils ont déjà perdu à l'avance, donc ça sert à rien de se lancer dans cette fraude électorale, quoi.
Merci Mohamed de nous avoir appelé. Merci à Mohamed qui nous appelait également de Nouakchott. Merci à tous de votre fidélité. Demain à ce micro, vous retrouverez Sébastien Lemaitre pour la Libre Antenne. Il attendait maintenant vos réactions, vos commentaires sur l'actualité de la semaine.
Appel sur l'actualité vous a été présenté par Orange Monnaie.